À 8h10, Alba Ventura, votre invitée, la secrétaire nationale des Verts.
Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour.
Alors la Cour d'appel de Paris dira aujourd'hui si Julien Coupa, incarcéré depuis la mi-novembre dans l'enquête sur des dégradations contre des lignes TGV, peut ou non sortir de prison. Pourquoi vous lui avez apporté votre soutien ?
Vous savez, moi j'ai apporté mon soutien aux libertés publiques et notamment au refus des lois antiterroristes, ces mesures d'exception qu'on peut éventuellement entendre mais qui s'appliquent absolument pas à la situation dont on parle. C'est pas que Julien Coupa, c'est aussi Ildune Lévy qui sont tous les deux incarcérés. S'ils sont coupables d'avoir dégradé les caténaires, l'enquête le dira, il y aura un procès, mais ils n'ont pas besoin d'être en prison pour attendre ce jugement et surtout pas dans cette effervescence médiatico-politique où il fallait trouver des terroristes avec un grand T, et on voit bien aujourd'hui que c'est du grand n'importe quoi.
C'est ça qui vous choque le plus dans cette affaire, c'est qu'il ait été qualifié de chef terroriste ?
Oui, ce qui me choque beaucoup, c'est qu'on ait voulu faire plaisir à la ministre, pour dire les choses un peu brutalement, et lui trouver les terroristes d'ultra-gauche dont elle avait besoin pour expliquer qu'il y avait plus ou moins des ennemis de l'intérieur. Je trouve ça assez scandaleux parce que quand on veut fabriquer ce genre d'opération, on voit ce qui se passe, c'est-à-dire que au final, le dossier est vide. Le juge des libertés et de la détention avait dit que Julien Coupa devait sortir vendredi dernier. Et on sent bien qu'il y a une pression qui n'est pas de nature judiciaire, mais plutôt politique pour le maintenir en prison, parce qu'on a fait tellement de bruit autour de cette histoire en ayant trouvé des
terroristes.
Personne
ne veut perdre la face, quoi. La ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice, personne ne veut perdre ni le parquet.
Voilà, et moi je pense qu'il faut faire très attention à ces emballements médiatico-politiques, parce que les caméras, en même temps que les gendarmes, tout simplement parce que la vraie cause de leur culpabilité était qu'ils vivaient différemment, qu'ils avaient choisi de vivre en Corrèze, en ouvrant une épicerie. Enfin, il y a tout un système autour de ça qui est très très dangereux et qui, à mon avis, là où c'est vraiment grave, c'est pas le cas individuel est très désagréable évidemment pour ceux qui sont aujourd'hui en détention, mais plus largement, c'est la question des libertés publiques, la question du respect de la présomption d'innocence qui est posée de façon aiguë.
Mais ça veut dire quoi? Alors, je sais pas si je vais bien prononcer anarcho-autonome, anarcho-autonome, comme on dit.
Ça veut rien dire.
Ça fait peur quand même, ce mot.
Voilà, bah, justement, c'est fait pour. Donc, on empile des petits morceaux coupés avec des hauts, l'ultra-gauche, anarcho-autonome. Ça veut pas dire grand-chose au final, on le voit bien parce que une grande partie d'entre eux sont déjà sortis de prison. Si c'était des dangereux terroristes, on aurait tous les éléments qui montreraient qu'il faudrait absolument les garder en détention provisoire. On ne l'a pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est deux choses. D'abord, l'utilisation de ces lois antiterroristes pour tout et n'importe quoi. Et ça, c'est très grave parce que ça permet de garder des gens à vue pendant des durées très longues, dans des procédures qui, normalement, devraient rester que très exceptionnelles. Et puis surtout, ça alimente une espèce de fantasme contre lequel il faut vraiment s'insurger parce que on voit bien qu'en situation de crise et en situation de perturbés, les gouvernements ont tendance à fabriquer des espèces d'ennemis de l'intérieur contre lesquels il faudrait qu'on soit mobilisé et qui nous menaceraient, ce qui évite de se poser les vraies questions de la situation, notamment économique et sociale du pays.
Il y a quand même des choses dans le dossier, il y a notamment une visite au Canada qui est un petit peu mystérieuse de la part de Julien Coupa, il y a des écrits, il y a... Bon, c'est pas totalement vide.
Moi, je connais pas le dossier, donc ce que je demande, c'est l'arrêt des procédures d'exception, le respect de la présomption d'innocence, mais les quelques éléments que j'ai pu lire dans la presse, qui ne sont pas des éléments d'ailleurs de nature judiciaire, c'est effectivement qu'ils sont allés aux États-Unis et qu'on a trouvé des tracts dans leur sac à dos. Enfin, il faut faire quand même très très attention sur le fait de considérer que d'avoir des tracts dans un sac à dos, ça vous qualifie instantanément de terroriste. Par ailleurs, le livre dont il a été question, sur lequel on peut avoir un avis politique ou même littéraire, c'est pas ça qui doit aujourd'hui qualifier les gens de terroristes ou de pas terroristes. C'est très grave cette dérive-là. Et le fait qu'on tolère ça, d'ailleurs, c'est un signal très mauvais pour la vie en société. C'est-à-dire qu'on accepte ces procédures d'exception, c'est qu'on accepte de juger les gens sur leur mode de vie et c'est qu'on accepte le refus de la présomption d'innocence. Et ça, c'est dangereux pour tout le monde. Pour vous, pour moi, un de ces jours.
Vous, ce que vous dénoncez, c'est la judiciarisation de la société. C'est pareil pour Julien Dray ?
Est-ce que vous le soutenez ? Non, c'est les mesures exceptionnelles. En l'occurrence, les lois antiterroristes qui ont été utilisées. Et d'ailleurs, il y a aussi des juges antiterroristes qui le dénoncent, qui ont dit très clairement que c'était des mesures qui pouvaient d'ailleurs. Souffrir débat, mais qui sont utilisées très facilement, parce qu'elles sont entre guillemets confortables. On met les gens en garde à vue 4 jours et puis on fait ce qu'on veut, grosso modo. Donc en leur laissant pas la possibilité de se défendre, c'est ça qui est très contestable. Mais la présomption d'innocence, elle s'applique à tout le monde, elle s'applique à Julien Dray aussi.
Vous le soutenez, Julien Dray ?
La question, c'est pas de le soutenir, parce que moi, je soutiens pas les gens par principe, simplement, je soutiens des principes très importants. Et le principe très important, c'est celui de la présomption d'innocence. Aujourd'hui, Julien Dray, il est même pas mis en examen, il fait l'objet d'une enquête préliminaire. Il y a tout un tas d'éléments qui sortent dans la presse. Si c'est vrai, c'est probablement condamnable. Mais imaginons imaginons tout simplement qu'il arrive à prouver ou qu'on démonte qu'un certain nombre d'éléments qui ont été publiés dans la presse étaient faux. Vous croyez que les journaux feront leur première page pour dire « bah excusez-nous, en fait on s'est trompé sur Julien Dray ?» Moi j'en sais rien, je le connais très peu, je connais absolument pas ce qu'il y a dans le dossier. En tout cas ce que je sais, c'est qu'il a fait déjà l'objet d'un procès dans la presse très 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 brutal. Et qu'on a du mal à se relever de ça, c'est certain, mais qu'en tout cas on a du mal surtout à faire entendre la justice dans cette période-là, parce que la présomption d'innocence, elle n'existe plus. Voilà.
Alors dans le même temps, Jean-Charles Marchiani a été gracié partiellement, ancien préfet du Var, ancien bras droit de Charles Pasqua. Lui, il a fait libérer les otages du Liban. Vous trouvez ça normal, cette grâce partielle ?
Alors, ce que je trouve totalement anormal, c'est la manière dont ça a été géré. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il allait y avoir un certain nombre de détenus méritants. On a fait semblant. Je pense que depuis le début, il était prévu de gracier Jean-Charles Marchiani. Donc, on en a rajouté quelques-uns avec pour faire bon poids. Alors, moi, là, ce qui me choque, évidemment que c'est très choquant ce qui arrive à Marchiani, mais ce qui est encore plus choquant, c'est la situation des prisons en France. Et c'est la situation de tous les détenus qui sont aujourd'hui dans des situations de détention absolument insupportables. La France est parmi les lanternes rouges d'Europe en matière de qualité de détention, puisque les gens sont à plusieurs par cellule, et qu'on ne se pose pas cette question-là de cette manière-là. Et bien, évidemment, on en fait sortir quelques-uns, en particulier les amis du président ou les amis de Charles Pasqua. C'est pas condamnable, c'est juste totalement choquant.
Cécile Duflot, on apprend ce matin dans le journal Les Échos que le développement de la voiture électrique, comme l'a souhaité le président Nicolas Sarkozy, pourrait nécessiter d'ici 2020 la construction d'un, voire deux réacteurs EPR. Vous allez faire le grand écart, là, les Verts.
C'est qui le on? C'est Areva. Est-ce qu'ils ont un peu du mal à les construire en Finlande et ailleurs? Donc,
c'est Sia Conseil qui indique ça ce matin dans le journal.
Moi, j'aime bien les entreprises de conseil en matière énergétique totalement indépendantes des grands entrepreneurs industriels ou nucléaires. Ce qui est très important en matière d'énergie, c'est se poser la question globalement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de dire si on développe tant de voitures électriques, il faudra tant de PR? Ben non, ça dépend. Si on a un plan massif d'économie d'énergie, et en particulier d'économie d'énergie électrique, mais pas seulement, globalement, sur tout ce qui concerne le transport ou même le chauffage des bâtiments, on se pose la question de l'énergie différemment.
Renouvelable.
Toute chose étant égale par ailleurs. Le débat du nucléaire, c'est toujours très difficile de le faire de façon très brève, en quelques minutes le matin à la radio, mais de toute façon, et je le redirai autant de fois que nécessaire, l'uranium qui sert à produire de l'électricité nucléaire est une ressource épuisable comme le pétrole. Donc de toute façon, même si on avait un débat qui en plus est très intéressant sur la question de l'énergie nucléaire, on sait que c'est quelque chose du court terme. Donc ce qu'il faut se poser comme question vis-à-vis du transport, vis-à-vis de l'énergie, c'est de savoir comment on sort du modèle de développement qui nous a emmenés dans le mur aujourd'hui, comment on développe une société basée sur l'économie des ressources, sur le partage des richesses. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est pas d'essayer de ramener le père par la fenêtre quand on voit bien qu'il sort par la porte dans plein de pays.
Cécile Duflot, on a toujours dit que les Verts étaient d'éternels adolescents. Pour la première fois, on se dit que là, ils ont mûri. Hein. Vous avez réussi le tour de force d'être prêt déjà pour les européennes de juin, avec des gens très différents, Cohn-Bendit, Beauvais, les amis de Hulot. Comment vous avez fait, comment a fait cette jeune femme de 33 ans qui dit qu'elle a le charisme d'une huître? Pourquoi vous dénigrez comme ça?
Moi j'ai le chic pour avoir des formules dévastatrices, après je me fais disputer énormément. Peut-être que c'est l'explication, mais plus sûrement, vous savez, moi j'aime bien qu'on fasse coller ses discours avec ses actes. Je suis venue au RER ce matin, on disait en rigolant ensemble, parce qu'il fait très très froid, mais aussi quand on dit que l'urgence écologique est majeure et qu'il faut qu'il y ait une mobilisation générale, alors on doit être capable de travailler tous ensemble, les Verts, mais tous ceux qui sont engagés depuis longtemps dans l'écologie et qui ont fait le choix de ce passage aux politiques, les gens qui étaient à Greenpeace, à FNE, qui disent bah, maintenant il faut des écologistes pour agir dans les institutions et notamment au Parlement européen. Donc voilà, on met en corrélation notre discours, l'urgence absolue et nos actes, et ben on se met d'accord ensemble, en passant un compromis, même si c'est difficile, et en essayant de faire abstraction des débats de personnes qui ont fait du mal aux Verts, mais qui font du mal à tous les partis politiques.
D'ailleurs. Donc grâce à vous, les Verts ont mûri. Merci beaucoup Cécile Duflot.